Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est là ma prière pour vous ce soir. Vous avez mis votre code, ce qui vous donne la possibilité d'entrer sur le site le vendredi soir. Ce sont des prédications beaucoup plus pointues, beaucoup plus sérieuses. C'est pour ceux qui cherchent vraiment à comprendre et à aller plus loin dans leur responsabilité de croyant. Je voudrais qu'on lise 1 Thessaloniciens 4, 13, 14. 1 Thessaloniciens 4, 13, 14. Mes frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les ramènera avec lui. Amen. L'apôtre dit, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Qui n'a pas d'espérance? Eh bien, ceux qui n'ont pas la foi. Et qui n'a pas la foi? Eh bien, ceux qui ne veulent pas croire, les envoyés de Dieu, qui leur parlent de la part du Seigneur, qui leur enseignent les choses de Dieu. Bon, il y a beaucoup de bricoleurs, des gens qui bricolent, qui racontent des histoires, qui parlent soi-disant de la part du Seigneur, mais qui disent n'importe quoi, qui vous racontent des fables, des vieilles histoires, des légendes. Non, je vous parle de ceux qui n'écoutent pas les véritables envoyés de Dieu, qui sont fidèles aux Saintes Écritures. Ceux-là n'ont pas une foi qui est établie sur la parole de Jésus, ils ont une foi qui est plus ou moins sentimentale, petite idée comme ça, mais non. En face du problème de la mort, ces gens-là sont désespérés, ils ne savent pas, ils n'ont aucune assurance, aucune espérance. Ce soir, je m'adresse à vous qui avez la foi, à vous qui croyez que vous avez été créé par Dieu. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas descendu du singe, vous avez un créateur, l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est à vous que je parle ce soir, à vous qui croyez que Dieu est un, qu'il vous aime, qu'il est venu habiter parmi les hommes, qu'il a enseigné, qu'il a fait des miracles, qu'il est mort en tant que notre substitut à la croix, portant nos péchés, les péchés, la peine que nous méritions, nous méritions la peine qu'il a subie, c'est nous qui la méritions à cause de nos fautes, et il a porté cette peine sur la croix. Je m'adresse ce soir à vous qui croyez qu'il est revenu d'entre les morts. C'était la foi des apôtres. Ne supposez pas cela, ils l'ont vu ressusciter, et ils sont venus le dire, ils l'ont écrit. Des milliers de personnes sont mortes à l'époque parce qu'elles refusaient de renier que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Il a vécu après être ressuscité avec les siens, il a mangé plusieurs fois avec eux. Et les siens préféraient mourir à l'époque plutôt que de renier que Jésus-Christ était ressuscité, ils l'avaient vu. C'est un fait historique. Le nier, c'est du négationnisme. C'est nier que des milliers de personnes sont mortes, massacrées par des incrédules. C'est nier cela. C'est monstrueux. Oui, Jésus-Christ est véritablement ressuscité. C'est historique. Les prophéties se sont toutes accomplies à son sujet et tout ce qu'il a dit lui-même s'est accompli. Il y a encore deux, trois petites choses qui ne sont pas accomplies, mais elles sont sur le point de s'accomplir, mes frères et sœurs. Réjouissez-vous, relevez la tête, ne vous laissez pas aller à la désespérance. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là, croyants. Malgré les moqueries des incrédules, nous sommes là, croyants, avec une certitude. Oui, mon Rédempteur est vivant, celui qui m'a racheté est vivant. Et parce que vous croyez, alors vous avez une espérance. Rien ne se termine avec la mort. Rien. Ah, ils sont étonnés, ceux qui meurent et qui étaient des incrédules. La première chose dont ils se rendent compte, c'est qu'ils ne sont pas morts. Simplement, ils ont quitté leur corps, mais ils sont toujours les mêmes. Ça leur fait un choc terrible. Après la mort, il y a un premier jugement. Il y a même pas besoin que quelqu'un leur dise où ils doivent aller, ils savent très bien où ils doivent aller, ils descendent dans ce que la Bible appelle le séjour des morts. Mais vous qui avez cru ici-bas, vous qui êtes croyants, vous qui avez la foi, vous qui avez cette espérance, la première chose, vous savez où est votre lieu, vous savez où aller. Vous marchez dans la lumière et vous allez dans ce que Jésus appelle le sein d'Abraham. Il y a un premier jugement là. Il y en a qui sont dans le sein d'Abraham et il y en a d'autres qui sont dans un lieu de tourment. Ils attendent le jugement dernier, parce que si un jugement dernier, c'est qu'il y en a bien un qui est là avant. Et ils attendent dans cet endroit-là. C'est pas le purgatoire non plus, hein. Ça, c'est une invention. Vous allez dans le lieu qui vous est réservé suivant la vie que vous avez eue, suivant si vous avez cru ou pas, et si vous avez mis en pratique ce que vous avez cru ou pas. Ceux qui n'ont pas cru vont dans un endroit où ils attendent le jugement final. Mais nous savons que Dieu est juste. Beaucoup n'ont pas cru ici-bas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ le Sauveur. Au 8e siècle après Jésus-Christ, les gens d'Australie d'Amérique du Sud ou des îles, je ne sais pas, ils n'avaient aucune chance d'entendre parler de Jésus-Christ. Croyez-vous que parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ils vont être condamnés? Non. Beaucoup n'ont pas cru ici-bas tout simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, leur Sauveur. Beaucoup n'ont pas cru ici-bas parce qu'ils ont été choqués par des religieux impurs. Mon père était de ceux-là. Mon père a été élevé, comme on l'appelle en Suisse, c'est pas la DAS, en Suisse, c'est, il était placé dans une famille. Et la famille qui l'a reçu pour son éducation, c'était des bigots. C'était un pasteur protestant qui faisait le beau, n'est-ce pas, sur la chair, qui prêchait d'une façon magnifique, mais qui, aussitôt rentré à la maison, s'adonnait à l'alcool, était violent, battait sa femme, les enfants, et mon père qui avait à l'époque 4-5 ans quand il est arrivé là. Mon père était choqué. Il disait, tous les religieux sont des hypocrites, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, je les écoute pas, c'est de l'hypocrisie, c'est pas vrai leurs histoires. Il a été choqué. Beaucoup n'ont pas cru ici-bas, et puis vous avez tous ceux qui sont violés par des religieux, etc. Bon, beaucoup n'ont pas cru ici-bas parce que ceux qui étaient chargés d'enseigner la vérité ont enseigné des fables, des idioties teintées de religiosité, des bêtises, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Que pouvons-nous espérer pour eux? Que pouvons-nous espérer pour ces gens qui n'ont pas cru? Jésus est clair, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais gloire à Dieu, il n'y a pas que ce verset dans la Bible. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont ni la foi, ni l'espérance. Nous avons la foi et l'espérance dans ce que Jésus dit, dans toute la Bible, pas seulement dans celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais dans tout ce que la Bible dit. Nous croyons dans l'amour et dans la justice de Dieu. Nous savons que tous ces gens-là dont je viens de parler ne seront pas forcément perdus. Nous savons que l'Évangile a aussi été annoncé aux morts afin que, pour que, après avoir été jugés selon la chair, comme des hommes selon la chair, eh bien, ils puissent vivre selon Dieu dans l'esprit. 1 Pierre 4:6. Jésus a été prêché l'Évangile aux morts et quand il est ressuscité, il a emmené avec lui dans les hauteurs des captifs. Éphésiens 4:8. Il y a dans le séjour des morts beaucoup de personnes de vos familles. Où est votre espérance? Ici-bas, nous pouvons faire quelque chose pour eux. Pas prier pour les morts, ça nous est rigoureusement interdit par la Bible. Mais nous pouvons faire ce que la Bible dit de faire. Sur la terre, nous pouvons contracter des alliances, des promesses sacrées que nous passons avec Dieu, parce que l'autorité de la prêtrise est rétablie. Elle a été rétablie dans notre dispensation. Et une de ces alliances est la possibilité qu'un mari et sa femme soient scellés, mariés pour l'éternité, non pas comme les religieux le disent aujourd'hui jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais mariés pour l'éternité, et que leurs enfants soient scellés à eux. Si nous respectons nos alliances, si nous respectons nos promesses avec le Seigneur et avec les uns et les autres, alors la mort ne nous séparera pas. Et nous pouvons accomplir les ordonnances aussi pour nos ancêtres qui sont décédés. Quel ancêtre connaissez-vous? Votre grand-père, votre grand-mère et leurs parents, vous les connaissez? C'était des gens avec un cœur, avec des défauts, mais avec des qualités. Si vous les aviez connus, vous les auriez aimés. Et où ils sont maintenant? Qu'est-ce que l'Église vous dit? Ils sont perdus? Les alliances accomplies ici-bas leur seront accessibles parce que nous avons une espérance. basé sur les saintes écritures, sur les paroles de Jésus. Nous ne sommes pas comme les incrédules de ce monde qui n'ont pas d'espérance. Ou simplement qui s'en fichent. Ben, il est mort, voilà, il est mort. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse maintenant? Hein, alors ils vont vous dire, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Pouf, et voilà, c'est fini pour eux, terminé. Oui, vient le jugement. Une fois que l'homme a vécu sur la terre, il y a un jugement, il est placé du mauvais ou du bon côté du séjour des morts, mais l'évangile est aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugé, il puisse encore vivre selon l'esprit. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces textes? Moi, j'ai de l'espérance parce que je crois dans ces textes. Je crois que mon grand-père Ulysse a entendu l'évangile. Il l'a jamais entendu sur la terre. Jamais. Il a entendu des pasteurs protestants qui bredouillaient des âneries plus ou moins tachetées de religiosité. Ma grand-mère Rose aussi, et puis leurs parents, et les parents de leurs parents, etc. J'ai une espérance. Je m'en fiche pas. J'ai une espérance. Dans la nouvelle version liturgique là que je me suis offert ces derniers temps, il est écrit que Jésus est monté sur la hauteur et il a capturé les captifs. Il y avait des captifs là en bas, il les a capturés pour les emmener dans les hauteurs. Lisez bien. Et il a fait une deuxième chose là. Premièrement, il a capturé les captifs et il nous dit, il a fait des dons aux hommes. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Il a fait des dons aux hommes. Un peu plus loin, il dit, il a fait des dons aux hommes, les apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Eh bien, écoutez bien. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il y a prêché l'évangile afin que ceux qui avaient été jugés quant à la chair puissent être sauvés et puissent vivre selon l'esprit. Il a capturé ceux qui étaient captifs du séjour des morts et ils sont montés dans le sein d'Abraham. Et en deuxième, il a fait des dons aux hommes. Quels dons? La prêtrise. Il a fait des dons. Il a donné des prêtres. Il a donné des gens qui sont dotés de la prêtrise. Il le dit. Éphésiens 4, 8, 11, tout ça c'est dans le même texte, dans le contexte. Ah, vous voulez toujours le contexte, eh bien voilà un contexte. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélisateurs, des pasteurs, des enseignants, des docteurs. Et tout ça c'est dans Éphésiens 4, 8, 11. Le salut des gens, vous savez, vous vous rappelez, Jésus a dit un jour, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi qu'elles entendent ma voix. Eh bien, le salut des gens de l'autre bergerie dont Jésus avait parlé, eh bien, ils sont là. Ils étaient captifs, là, dans cette bergerie, captifs là, et il les a capturés, il les a emmenés avec lui, parce qu'il les a sauvés, là, dans le séjour des morts. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, c'est comme ça parce que Dieu aime les gens beaucoup plus que vous ne sauriez jamais les aimer. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour le recevoir de nouveau. Jean 10, 16, 17. Vous avez vu? Il associe ces deux choses. Jésus associe l'autre bergerie à ceux qu'il va rencontrer, donc, lorsqu'il va donner sa vie. C'est ce qu'il dit. Il ne parle pas au hasard, il parle de deux choses qui sont associées. Il associe le fait qu'il y a une autre bergerie et il associe cela au fait qu'il va donner sa vie. C'est en donnant sa vie qu'il a pu aller dans l'autre bergerie. Mais quand allez-vous ouvrir vos oreilles et vos cœurs pour comprendre l'amour infini et insondable de Dieu pour vos ancêtres? C'est pas parce que des églises nous ont raconté des faussetés que tout est faux. Dieu ne parle pas au hasard, les deux choses sont associées, et il associe aussi deux autres choses. Il associe aussi ce travail dans cette autre bergerie à une seconde chose, le don de la prêtrise. Et voici, au cours des âges, au cours du temps, la prêtrise a été perdue, vous savez comment, l'apostasie est arrivée, c'est devenu n'importe quoi, de la religion, de la guerre de religion, de prise de pouvoir, des meurtres, des massacres au nom du Seigneur, des horreurs. La prêtrise a été perdue, avec la prêtrise perdue, la foi a été perdue, l'espérance a été perdue. Il n'est resté qu'un tout petit reste qui croyait encore, qui vivotait dans son coin. mais il n'y avait plus personne pour exercer la prêtrise, pour parler au nom du Seigneur, pour agir au nom du Seigneur, jusqu'à ce que Élie ne soit venu. Élie est venu. Vous trouvez ça dans la Bible, dans le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 23, ou je crois dans d'autres versions, c'est au chapitre 4. Et là, la prêtrise a été rétablie. C'est-à-dire, le cœur des familles peuvent se rapprocher, comme c'est écrit, père-fils, fils-père, le cœur des familles peuvent se rapprocher, l'espérance renaît au sujet de nos ancêtres. Ce ministère du scellement des familles, le prophète Malachie dit que s'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas ce ministère de scellement des familles, le pays serait frappé d'anathème. Parce que la majorité des vivants ne connaît pas le seul vrai Dieu. Ils connaissent une espèce de Jésus sentimental. Ils ont une religion. Ils ont des aveugles qui les conduisent. Voilà. Mais ils sont pas avec une véritable espérance. Gloire à Dieu. Avec la prêtrise qui a été rétablie, le salut par la foi est rétabli, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est rétabli. Selon Actes 2, 38, les dons surnaturels du Saint-Esprit sont rétablis. Nous pouvons lier et délier sur la terre. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Quand nous le faisons au nom de Jésus-Christ, étant doté de la véritable prêtrise, de l'autorité du nom de Jésus, tout ce que vous faites, faites-le en mon nom, Jésus dit. Mais qui faisait ça? Plus personne ne faisait ça dans les religions. Des petites prières remplies d'incrédulité. Mais personne prenait l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ avant que la prêtrise ne soit rétablie. La vie communautaire est rétablie. Le lavage des pieds est rétabli. C'est-à-dire le pouvoir de nous pardonner mutuellement au nom du Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur terre. Et tout ce que nous pardonnons ici-bas sur terre est pardonné dans le ciel. Vous voyez? Le baptême des morts, le baptême à la place des morts est rétabli. Le scellement des familles se rétablit. Déjà, Dieu nous l'a révélé. Nous l'avons compris. Et bientôt, on va le faire. Bientôt, on va le faire. Nous allons construire avec foi, avec espérance, le temple pour le scellement des familles éternelles. On commencera par sceller des mariages éternels ici. Des frères et sœurs mariés dans la communauté, on bénira des mariages éternels. Il y en a déjà dans la communauté qui ont acheté les alliances pour cela. Et j'ai pris des contacts pour la construction du temple des scellements. Alors nous tiendrons au courant tous nos frères et sœurs fidèles de Révélation Bible et ils pourront venir aussi pour sceller leur mariage pour l'éternité. Parce que vous pouvez courir dans le monde entier, vous ne trouverez pas. Personne ne le fera pour vous. Parce qu'ils ne le croient pas. Ils n'ont pas l'espérance pour l'éternité. Moi, j'ai l'espérance pour l'éternité pour tout. Je me suis uni à ma femme, c'est pas pour être séparé d'elle pour l'éternité. Non. Ça, c'est les religieux qui disent. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, vous pourrez venir pour sceller votre mariage pour l'éternité si vous le voulez. Si vous le voulez. Vous pourrez venir sceller aussi vos enfants à vous. Vous pourrez vous les sceller. Et vous pourrez aussi venir pour sceller votre famille, les ancêtres. On vous tiendra au courant. Nous ne sommes pas sans espérance, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas sans espérance. Notre espérance, elle est illimitée parce que nous avons un Dieu illimité. Vous, les parents qui avez perdu un être cher, un enfant. Vous, les enfants qui avez perdu vos parents. Vous demandez, mais il est où? J'ai même vu une fois dans mon bureau un homme qui était le frère d'un pasteur français. Cet homme, il pleurait après la mort de son frère pasteur. Son frère qui était pasteur, qui avait prêché toute sa vie. Et bien là, j'avais son frère qui était là dans mon bureau et il pleurait. Et je dis, mais pourquoi tu pleures? Tu es sans espérance. Il me dit, à la fin de sa vie, il ne voulait plus lire sa Bible. Il ne voulait plus qu'on lui parle de Dieu. Il ne voulait plus qu'on prie. Est-ce que tu crois qu'il est sauvé? Voyez, plus d'espérance. J'ai parlé avec des mamans qui ont perdu leur fille. Je me rappelle toujours de cette maman italienne. La sœur Maria, je me rappelle, s'appelle. Maria Douache, je me rappelle bien. T'es à ma table, nous parlions de cela. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, ah, je retrouve de l'espérance. Parce que juste quelque temps avant que je me convertisse, mon fils est décédé. Et alors, c'est un poids depuis, je me dis tout le temps, mais il n'a jamais cru. Alors, est-ce qu'il est en enfer, mon fils? Elle me dit, maintenant, vous me donnez de l'espérance. Nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance parce que nous avons foi dans les paroles de Jésus-Christ. Et non pas foi dans les interprétations des églises apostates de ce monde. Vous qui avez perdu un être cher dans la maladie, dans un accident, frère Jonton, où est-ce qu'ils sont? Oh, il y en a beaucoup qui ne s'en soucient pas, ils ne veulent même pas y penser, ils pensent à autre chose, ils ne veulent plus y penser, ça leur fait trop peur. On leur a tellement dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, qu'ils ont tellement peur de ça qu'ils ne veulent même plus y penser, alors ils pensent à autre chose, puis c'est tout. Mais vous pouvez avoir de l'espérance encore. Ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce que personne ne leur a dit. S'ils n'ont pas d'espérance, c'est parce que ce qui leur prêche l'évangile ne leur a pas prêché comme je vous le prêche ce soir. Il leur a pas dit toute la vérité. Il leur a dit une partie de la vérité. Ce message que je vous annonce est le plus grand message d'espérance qu'il puisse y avoir aujourd'hui pour un chrétien. Tout n'est pas fini après la mort. Non, tout n'est pas fini. Mes frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux du monde. Et si ce que je vous dis là n'est pas vrai, nous sommes malheureux. Mais gloire à Dieu, je suis heureux parce que j'ai de l'espérance, je crois que Jésus est allé pour capturer les captifs qui étaient là, captifs dans le séjour des morts, il les a fait sortir de là. Et je crois que mes ancêtres, tous mes ancêtres, c'est la même chose. Il suffit simplement que je fasse sur la terre ce que j'ai à faire. Pas prier pour eux. Ça nous a été interdit. Me faire baptiser à leur place. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est biblique. Nous sommes les chrétiens les plus heureux de ce monde. Nous avons de l'espérance. Ton grand-père qui ne connaissait pas Jésus et son père avant lui, et sa mère et son père avant lui, et leurs autres enfants, où sont-ils? Les religieux vont te dire qu'ils sont en enfer parce qu'ils n'ont pas levé leurs mains dans une réunion, parce qu'ils n'ont pas été plongés dans l'eau. Eh bien, l'amour de Dieu, il n'est pas pour beaucoup de monde, hein. Il est juste pour très peu de personnes, là. Non, l'amour de Dieu est infini. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que nous sachions ces choses. Bien sûr qu'il jugera selon ceux qui n'ont pas connu, selon leur conscience, parce que nous ne pouvons pas faire les ordonnances pour tous, parce que beaucoup de noms se sont perdus au cours des millénaires. Mais pour nos ancêtres, nous pouvons le faire, parce que nous pouvons nous donner la peine de chercher. Ah, on se donne bien la peine, hein, pour chercher des âneries sur Internet et des crétineries pour pouvoir jouer, se distraire. On peut faire des efforts, mais pour chercher ce qui est vital, là, je pense que c'est nécessaire que vous vous réveillez. Mais non, ils sont pas en enfer. Il y a encore une possibilité. La vérité est rétablie aujourd'hui. Il y a de l'espérance. Toi, fais donc ce que tu dois faire. Mets-toi devant ton Dieu. Cherche et tu trouveras. Prie, le Seigneur va t'indiquer la vérité, va te montrer la vérité. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, qu'ils réalisent combien ce message est urgent, parce que le monde se meurt, manque d'espérance. Il manque tellement d'espérance. Qui se distraisent, se racontent des fables, se racontent des histoires, se donnent une foule de docteurs qui leur racontent n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas d'espérance, ils ne savent plus où est la vérité. Seigneur Jésus, montre-leur que tu m'as envoyé pour leur dire cela. Je te le demande, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À bientôt. Dieu vous bénisse.